Tu peux m'expliquer pourquoi, par exemple, l'AGP s'est intéressée aux effets des faits divers, notamment l'affaire de Bruay-en-Artois, dans laquelle il y avait Julie, là, par contre, Serge Julie, qui a eu un rôle important, je crois, non? En tout cas, qu'est-ce que c'était que l'affaire de Bruay-en-Artois et pourquoi vous aviez analysé que ça avait une importance de vous intéresser aux faits divers?
Le fait divers, et je crois que personne ne peut dire l'inverse, est toujours le révélateur d'une société. Nous avions perçu dans un bassin minier qui était à l'époque encore à Bruay-en-Artois l'assassinat de la petite Brigitte de Vèvre, fille de mineur, et perçu comme tel par la population comme un assassinat de classe. C'est-à-dire que, à l'évidence, la justice, a priori, a tendance, et on le voit encore aujourd'hui, à classer sans suite ou à passer l'éponge sur des assassinats de jeunes de banlieue, la mort des pauvres n'a jamais le même poids que la mort des riches, et ni pour la justice, ni pour la police, ni dans le cadre des enquêtes. Et je pense que, en ce qui concerne l'assassinat de la petite Brigitte de Vèvre, dont on ne connaît toujours pas l'assassin, il y a eu une conjonction extrêmement particulière d'une implantation de militants maoïstes importante chez les mineurs, de Bruay et du secteur. On avait fait quelques années auparavant le tribunal des Houillères, hein, le tribunal populaire qui avait jugé les crimes. Ça aussi, c'est une idée que les maoïstes ont mis en avant, de faire reconnaître que les accidents du travail étaient des assassinats légaux. Quelque part, même si on peut se féliciter aujourd'hui que la protection sociale prenne en compte distinctement de la maladie, l'accident de travail, historiquement, il a été conçu pour épargner les poursuites aux employeurs, pour meurtre, mutilation, etc. Et donc, il y avait eu le tribunal des Houillères, il y avait une implantation maoïste extrêmement significative dans le bassin houillier, comme dans la vallée de la Fenche, au niveau de la sidérurgie, enfin, c'est différents endroits en France, où il y avait une tradition ouvrière, et un mouvement maoïste qui était né dans les...
C'est Julie, donc, qui était...
Non, Julie a été chroniqué envoyé par la cause du peuple, à cette époque-là.
Il n'avait pas un rôle de cadre organisationnel.
Non, les cadres organisationnels, c'était des mineurs.
D'accord.
C'était des mineurs, hein, qui étaient parfois à la direction, d'ailleurs, de la gauche prolétarienne, ou de ce qu'il en restait. C'est-à-dire que à la direction nationale, on avait plusieurs camarades mineurs. Donc, sur Bruay, en effet, il y a eu cette mobilisation, et puis la conjonction avec un petit juge, qui était ce qu'on appelait le juge Pascal, de son nom de famille, qui a voulu jouer le jeu, de dire, c'est vrai, on doit rendre la justice au nom du peuple. Et de faire une enquête qui a bousculé les notables sur place, y compris il est parti sur ce qui était peut-être une fausse piste, qui était celle du notaire, mais ça, on ne le sait pas, puisqu'il a été dessaisi de l'enquête. Le juge qui l'a suivi a trouvé un faux coupable, un jeune mineur, un jeune enfant de mineur, plutôt, puisqu'il était un voisin de Brigitte de Vèvre et un très jeune sympathisant qui était engagé dans le comité de soutien pour la vérité et la justice pour Brigitte de Vèvre, contraint à des aveux, qui ensuite ont été évidemment, n'ont pas résisté à l'analyse, personne ne sait aujourd'hui qui est en définitive l'assassin. Ce qui, je ne veux pas revenir sur une affaire un peu compliquée où je n'ai pas tous les éléments, mais laisse supposer que par contre, il y a eu des complicités extrêmement élevées, de quelque part, on était dans une répétition de l'affaire Dutroux.
D'accord. Alors, avant d'en venir à Pierre-Germain, est-ce que tu peux brièvement me parler quand même de deux choses, donc, même si ce sont des choses importantes, dans le film d'Assayas, c'est le mouvement lycéen, en fait, dont il est question. Et toi, c'était ta responsabilité. Le mouvement lycéen, donc tu étais responsable de la gauche prolétarienne nationale de la jeunesse. Donc, est-ce que tu peux me parler plus précisément du mouvement lycéen?
Le mouvement lycéen, il a été extrêmement important. Il a été extrêmement important, d'abord parce que, démographiquement, le nombre des lycéens s'est beaucoup accru après 68. Et notamment avec le développement des lycées techniques. Et moi, j'étais dans les lycées techniques, où on rencontrait, si on veut voir... Oui, mais si on veut voir à l'époque que deux autres organisations chez les lycéens qui étaient éphémèrement des profs qui étaient à lutte ouvrière avaient pu créer une organisation qui s'appelait Sud du Technique.
Oui.
Et qui était une espèce de petite courroie de transmission organisationnelle, mais qui ne faisait pas vraiment de travail de masse de lutte ouvrière, et autrement, la jeunesse communiste. La jeunesse communiste qui était... dans le technique, on n'avait aucun...
Ah oui, tu parles du technique.
Absolument.
La ligue communiste était et, dans les universités.
Et nous, c'était un peu notre point fort, sachant qu'on avait évidemment également des implantations dans des lycées, même des grands lycées parisiens de prestige. Et en effet, cette direction lycéenne a été capable, je pense, de... parfois seul, parfois avec d'autres organisations, en capacité de construire des mobilisations, pas seulement contre la répression, mais également des questions qui étaient liées à l'amélioration, par exemple, de la sécurité des établissements scolaires. On se rappelle que quelques années après, mais très peu d'années après, l'incendie du CES Payron avait été un énorme scandale et qui montrait bien que les luttes qui étaient menées, notamment sur la qualité des constructions, moi je me rappelle dans mon établissement scolaire, par exemple, je me rappelle dans mon établissement scolaire la question du chauffage du lycée, qui était des chaudières extrêmement dangereuses, était un objet de mobilisation permanent. Et en même temps, on avait une contestation qui était relativement poussée et que peut-être d'autres faisaient peu moins, qui était sur les contenus de l'enseignement et de l'enseignement technique notamment. C'est-à-dire, notamment, on mettait en cause le fait que beaucoup d'enseignants, même du technique, étaient souvent coupés des entreprises et des réalités des entreprises, et que, par exemple, aucun enseignement ne nous était donné pour savoir lire une fiche de paye. Aucun enseignement ne nous était donné sur la législation du travail dans les programmes. Et je me souviens que c'était l'époque des anciens ordinateurs, hein, on était très très hostile à la notion de programme, et on disait, voilà, on n'est pas des ordinateurs, on ne veut pas être programmé comme si on était des ordinateurs par les patrons.
Combien de militants à peu près la jeunesse de l'AGP a pu réunir, a pu organiser?
Le mot qui était utilisé à l'époque pour désigner dans la presse les Maoïstes, c'était les Mao Spontex. Pourquoi? Parce qu'en effet, une construction à minima parfois au niveau organisationnel, on arrivait à être extrêmement nombreux comme une éponge qui se gonfle, les fameuses éponges Spontex de l'époque. Les réalités, c'est que les assemblées qu'on devait faire, je ne me souviens plus si c'était toutes les semaines ou tous les 15 jours à Jussieu, qui étaient un peu les assemblées larges de direction du mouvement de la jeunesse, on y était chaque fois 80 à 100. En même temps, ce n'était pas le reflet de l'organisation, puisque par exemple, de mon secteur, j'étais à peu près... un des rares à venir, je venais rarement avec...
Là, tu étais sur le secteur Est, même, oui, si tu étais responsable national.
Oui, j'étais sur le secteur de Est, ce qu'on appelait la zone extrême-Est, qui allait jusqu'à Marne-la-Vallée et commençait au périphérique. Donc, sur cette zone-là, on pouvait être facilement, nous aussi, une centaine. Mais de cette centaine-là, on était peut-être que deux ou trois en termes de lycéens à venir.
Mais par contre, dans les mobilisations, par exemple sur Richard Dezay, vous aviez combien de monde pour la manif de...
Ensuite,
combien de monde vous avez pu mobiliser?
Ensuite, sur la banlieue Est, on avait à l'époque, c'était un secteur qui comptait une vingtaine de lycées, y compris quelques établissements privés, et on arrivait à mobiliser très rapidement, à partir du moment où dans un lycée il y avait une grève, selon les lycées, de 200 à la manif à 500 personnes par lycée. Donc multiplié par le nombre de lycées, ça faisait très vite du monde, sachant qu'il y avait également les étudiants qui étaient la fac de Vincennes. La fac de Saint-Mandé n'était pas encore construite, encore moins celle de Marne-la-Vallée, et qu'on avait aussi, alors c'était bien sûr beaucoup plus compliqué, parce qu'on ne quitte pas le travail comme ça, de la jeunesse ouvrière qui venait, on se faisait parfois traiter de horde sauvage, parce que à l'époque on était un peu assimilé à ce que Sarkozy appelait ensuite la racaille.
Est-ce que tu peux me parler, alors c'est beaucoup plus tard quand même, même si c'est, on sort un peu des années concernées, de Pierre Goldman et de ce que tu faisais comme travail avec Goldman. Et comment Goldman est arrivé au travail donc anti-fasciste.
Pierre Goldman était un militant qui était rompu quand même à des formes d'organisation qui étaient nous on avait
violente quoi.
Oui, et puis surtout protégée, c'est-à-dire que des habitudes de travail militant qui étaient avec des protections par rapport à la police, par rapport à des infiltrations, par rapport à un certain nombre de choses que nous avions dans une toute petite mesure à côté de lui. Et il avait en plus ses propres réseaux de gens qu'il connaissait, qu'il avait fréquenté, comme chacun de nous pouvait avoir des liens avec les uns ou les autres. Mais et donc
il était présenté comme un délinquant lié à la prostitution.
Ça n'a absolument aucun sens, excepté que bien évidemment. Par exemple, nous qui étions dans un lycée où on mettait par exemple tous les jeunes qui avaient été virés de l'académie de Créteil, on pouvait nous accuser d'être liés aux drogués. Ouais. C'est à peu près le même type de choses. Que Pierre Goldman ait connu, et c'est certain qu'il en a connu, des gens qui avaient des dossiers judiciaires, que ce soit sur le proxénétisme ou d'autres sujets, c'est l'évidence. Mais parce que il avait une vie sociale et par exemple, des fois pour avoir une voiture ou pour avoir des faux papiers, tout le monde ne passait pas, les organisations n'étaient pas capables de fournir tout et n'importe quoi comme ça si facilement. Ça, c'est du romantisme. Donc, parfois, certains pouvaient s'adresser à des gens qui fournissaient aussi parfois le milieu, même à notre insu. Même à notre insu. Alors, on était suffisamment paranoïaque pour soupçonner tout le monde de le faire, mais
Pierre, et quels étaient ses attributs, ses fonctions, son rôle? Et jusqu'à son assassinat, pourquoi?
Ça, je ne pourrais pas dire. Ensuite, il était...
dire pourquoi il a été assassiné.
Ah, je pense qu'on sait pourquoi il a été assassiné, mais il a été assassiné un peu dans une réflexion sur la stratégie de la tension, qui était issue de la mouvance de Giscard, les Poniatowski, Hubert Bassot, des gens comme ça, qui ont essayé de voir si il pouvait pas déclencher des représailles.
De la police, c'est Poniatowski Basson.
Absolument. C'est un fascisme qui venait d'en haut, hein, qui était on a essayé à partir de fantasmes d'extrême droite, hein, de fantasmes policiers, etc., d'inventer des secteurs sur lesquels, si on tapait, il y aurait des représailles qui terroriseraient la population et permettraient à la droite de gagner les élections de 81. Donc les honneurs de la police, c'est une petite organisation politico-policière et mafieuse également, puisque avec les droits communs dedans, les Mayon, les Maud, etc., qui étaient des truands plutôt que des politiques, exécuteurs des basses œuvres, mais il y avait aussi des policiers, des cadres de la police bien sûr, hein, pas des policiers de commissariat, pas des petits fonctionnaires. qui, dans cette affaire-là, ont essayé de penser que les réseaux du FLN en France pouvaient se venger de l'assassinat d'un des leurs, que le service d'ordre de la CGT allait peut-être aussi poser des bombes si on faisait des attentats contre ses dirigeants, que les réseaux issus du maoïsme feraient de même, et les réseaux pluriels aussi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce type de cibles qui ont été celles d'honneur de la police, qui étaient des cibles qui n'avaient pas d'autres liens entre elles que celui-là.
D'accord. Imposer une stratégie de l'attention, voilà, avant les élections de 81.
Et ça n'a pas marché. Parce que ni les uns ni les autres n'ont été, ne sont tombés dans le piège politique qui était de...
Mais pourquoi Pierre Goldman? Qu'est-ce qui faisait Pierre?
Pierre avait une réputation d'être quelqu'un qui aurait été lié au guérillérisme, à des choses comme ça, français, ce qui n'était évidemment pas exact, parce que c'était pas sa conception politique. Et en même temps, comme il avait été jugé et condamné dans un premier temps pour un meurtre qu'il n'a pas commis sur une pharmacienne, il avait un nom connu, ça pouvait, à mon avis,
faire peur.
Voilà, c'était l'idée de faire peur et déclencher des représailles.
C'était la stratégie donc de Poniatowski.
Voilà, Poniatowski était le grand politique avec Michel de Saint-Pierre, son beau-frère, et Hubert Bassot, qui était à l'époque député de l'Orne UDF, quelques policiers dont certains sont toujours...
Donc c'était pas les gaullistes, ça venait plutôt des centristes. UDF.
Ça venait des anciens réseaux de soutien à l'OAS qui étaient, y compris au Conseil des ministres de Gaulle à l'époque, et qui renseignaient sur les déplacements de Gaulle les gens de l'OAS pour qu'il y ait des attentats.
C'est de là que l'honneur de la police vient.
C'est tout à fait de cette époque-là que ce genre de réseau a pu se constituer.
D'accord. Et le rôle de Pierre Goldman sur l'antifascisme, dans l'antifascisme?
Il avait été dans l'avant et tout de suite immédiat après 68 un responsable de service d'ordre efficace qui avait permis de frapper des cibles d'extrême droite à 2-3 reprises. Et à son retour d'Amérique latine, il était en offre de service sur le même genre de choses. Et nous, c'était une carte qu'on considérait comme éventuellement...
Ou la gauche prolétarienne.
Non, la gauche prolétarienne n'existait plus.
Qui n'existait plus, mais enfin les anciens.
Oui,
qui
faisions entre autres. On ne se voyait pas tous. On se voyait en fonction
des enjeux.
D'enjeux, on se voyait en
même
fonction...
Même quand la gauche prolétarienne a été dissoute.
Bien sûr. On se voyait surtout en fonction des engagements militants qu'on avait pris les uns ou les autres. Certains se sont retrouvés... sur, par exemple, les batailles contre le Super Phénix, le surgénérateur qui devait se faire à Malville, etc. Certains se sont retrouvés sur des luttes dans les chantiers navals. Beaucoup se sont retrouvés dans la poursuite de là où ils étaient, en réalité, aussi engagés. Pas seulement Saint-Nazaire, il y a la Ciotat, sur les temps de Baird, on avait beaucoup de militants maoïstes, des ouvriers qui étaient à l'UNCLA, l'Union nationale des comités de lutte d'atelier, et on avait des militants maghrébins, on avait des militants mauriciens qui militaient sur l'immigration mauricienne en France, c'était extrêmement diversifié, le tour est un peu compliqué. On avait des gens qui ont mené des batailles dans les milieux judiciaires ou comme avocats, parfois en choisissant de poursuivre des études dans la magistrature. On a eu une grande diversification des engagements, et je dois dire que pour avoir été un de ceux qui me suis notamment investi sur les questions de la lutte contre l'extrême droite à cette époque-là, quand on pensait qu'elle risquait de prendre un poids dans l'opinion et qu'une division du travail en Europe était possible sur ces questions-là, avec justement l'extrême droite et la social-démocratie, ni les uns ni les autres, de ceux qui militaient avec moi, ne militions que là-dessus. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré qu'en même temps, il aurait été mortifère de faire une spécialisation sur une question était stratégiquement en marge dans la lutte de classe.
Au regard de ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui en Europe, hein, dans plusieurs pays, je pense à la Hongrie et d'autres pays, et du poids y compris, même si ce n'est pas tout à fait de la même nature, de Marine Le Pen par exemple et du Front National aujourd'hui, tu penses que il n'y a pas eu une surestimation des possibilités de l'extrême droite, aussi bien du côté de la gauche prolétarienne que de la Ligue communiste. Bon, moi je me souviens à la Ligue communiste des affrontements à Assas, d'aller provoquer les étudiants de droit, ou d'aller coller sur la fac d'Assas exprès à Assas, parce que là, or aujourd'hui on voit que il y a une imprégnation plus grande de l'extrême droite dans la cité française. Est-ce qu'il y a quand même eu une erreur, même si le danger fasciste, il faut toujours lutter contre. Mais aujourd'hui, comment tu vois ça par rapport à l'importance que vous lui accordiez à l'époque au danger fasciste?
Je pense qu'on avait une analyse extrêmement originale, même si c'est quelqu'un qui a depuis dit énormément de bêtises, qui avait théorisé ça dans un texte qui est paru dans les temps modernes, qui s'appelait Nouveau fascisme, nouvelle démocratie, c'est Glucksmann.
C'est Glucksmann.
André Glucksmann avait repris et théorisé, mis en forme, hein, pour les milieux qui lisaient les temps modernes, donc c'était quand même pas toute la GP qui lisait les temps modernes.
Les intellectuels de la GP.
Non, ceux qui tournaient autour. Et c'était plutôt à usage extérieur. Mais en même temps, ce qui était la théorie de l'AGP, qui était, selon la formule un peu raccourcie, que le fascisme vient d'en haut. Et on considérait que le fascisme, sous son volet raciste, venait de l'histoire coloniale de la France, et que sous son volet policier, patronal, etc., il venait du sommet de l'État et des stratégies des multinationales. Ce qui fait que on considérait que on avait une formule aussi qui était un peu saisissante. On disait Marcellin, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, et qui avait une belle longévité comme ministre de l'Intérieur, ne risque pas de prendre son bureau d'assaut. On n'était pas sur un scénario à la Pinochet, on était encore moins sur un scénario d'une extrême droite venue de nulle part et ou qui aurait été purement héritière de ci ou ça. On pensait que réellement c'était un choix de sommet qui faisait que l'extrême droite servait de rabatteur au capital sur un certain nombre de questions. Et je crois que la seule évolution majeure qui s'est produite, par rapport à laquelle on doit passer au crible cette analyse, c'est que le sommet s'est déplacé. C'est-à-dire que le sommet n'est plus forcément aujourd'hui les ministres de l'Intérieur des États. Aujourd'hui, c'est pas Valls qui télécommande le Front National. Par contre, c'est au sommet de l'Union Européenne qu'on trouve l'origine des stratégies qui ont besoin de l'extrême droite un peu partout en Europe pour faire passer leur politique.
Donc tu penses que la politique européenne aujourd'hui choisit de s'appuyer volontairement sur l'extrême droite pour faire passer l'austérité?
Absolument. C'est même indispensable. Je pense que sans ces rabatteurs-là, elle aurait énormément de mal à le faire.
Et le danger de l'extrême droite, comment on le combat?
Le danger de l'extrême droite, on le combat justement en se battant contre l'austérité, c'est-à-dire en permettant que des résultats puisse casser la démagogie sur laquelle elle s'appuie, et en même temps en développant des formes d'organisation, y compris de pression sur les États, sur les États-nations, pour que il y ait une répression de ce qui relève de discours criminels.